Vous écoutez
RMC. RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Aïe. Aïe, y a bagarre.
Ça y est, c'est
y a
parti.
Bagarre.
C'est parti sous nos yeux là en bas.
Calmez-vous un peu.
Non, je me calme pas.
Llorente est allé lui hurler dessus et là Savic ça l'a rendu dingue. Et là, il y a des échanges de coups, hein, très clairement.
Je vais péter un coup.
Il y a eu un pain, il s'est pris un pain, Savic.
Ah ouais, c'est parti dans le tunnel, vous ne le voyez pas, mais la bagarre est générale.
Je sais pas ce qu'il cherche là, mais c'est pas bon ça. La bagarre.
Il y a bagarre. Oh, c'est électrique.
C'est une scène assez rare en tennis que nous avons vécue cette semaine. Corentin Moutet a eu donc une chaude altercation avec le bulgare Adrian Andreev au deuxième tour du Challenger de l'Open d'Orléans. Le joueur français qui est avec nous dans le studio RMC en est venu aux mains avec son adversaire lors de la poignée de main finale. Les deux joueurs ont dû être séparés par l'arbitre de ce match. Corentin Moutet qui a publié un texte sur Instagram. Corentin, je tiens à ne pas m'excuser pour ce qui est arrivé, ce qui est assez rare. Attention, j'ai relu deux fois pour savoir s'il y avait une erreur. Je tiens à ne pas m'excuser. Quand un joueur se permet de dire fuck you à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m'empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce ne sont pas des choses qui se font. Avant d'entendre Corentin, évidemment, sur cette histoire, la musique qui fout les jetons et cette question. Faut-il pardonner les pétages de plomb, mes GG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Mais oui, bien sûr que oui.
David Douillet.
Eh oui, bien sûr.
J'ose à peine poser la question à Stephen Brun, qui est donc un habitué des pétages de plomb. Stephen Brun.
Oui, il faut tout pardonner.
Tout pardonner, ok. Denis Charvet, les valeurs de rugby.
Une fois, pas deux.
Une fois, pas deux. Très bien, mon cher Denis. Avant de débattre, vous allez nous donner votre point de vue. Corentin Moutet est donc notre invité. Merci une nouvelle fois, Corentin, d'avoir répondu à notre invitation. Que s'est-il passé sur ce court? Parce que, je le disais, c'est une image assez rare. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Bon, En fait, pas grand-chose, à vrai dire. En fait, c'est rare dans le tennis de voir ça, donc forcément, ça fait parler, c'est impressionnant. Mais en vrai, c'est pas passé grand-chose. Le truc, c'est qu'on s'est joué la semaine d'avant à Gênes, en tournoi, où c'était pareil. Bon, il y avait pas autant de monde, c'était beaucoup plus discret, mais il m'avait cherché tout le match et tout, et je lui avais demandé ce qu'il cherchait en fait, s'il était venu là pour jouer, ou s'il était venu là pour me perturber et chercher quelque chose que j'ignorais. Et donc ça avait commencé en fait la semaine d'avant, donc forcément c'est déjà monté en pression, et avant de se jouer on avait déjà un passé assez récent en plus, même si c'était rien de passé du tout la semaine d'avant, juste il m'avait cherché, je lui ai demandé pourquoi il me cherchait et ça s'était arrêté là. Et puis à ce match là, en vrai c'était un match, c'était un gros match, enfin c'est un très bon joueur, il a très bien joué, c'était un très beau match de 3 heures, donc avec beaucoup d'émotions
et de tension et
de fatigue aussi. Et puis en fait moi j'étais, en fait la manière dont ça s'est passé à la fin du match, j'étais surpris, je pense comme tout le monde, de sa réaction à lui, parce qu'il avait gagné, donc moi j'étais très frustré de perdre ce dernier point, j'avais juste envie de partir à partir du moment où c'était fini, j'avais envie de lui serrer la main rapidement, serrer la main de l'arbitre, partir. Comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo que j'ai vue malgré moi.
Et toi, t'avais rien contre lui, là, on est d'accord.
Si, moi, j'apprécie pas la personne, j'apprécie pas la manière dont il se comporte, et pour moi, il me respecte pas. Donc pour moi, j'allais faire les choses bien, lui serrer la main, serrer la main de l'arbitre pour le public, parce que le public était là, avait vu un beau match et que le match était beau. Même si je respecte pas la personne, c'est un très bon joueur, comme je le disais, il joue très bien.
Tu n'y allais pas pour la castagne, si j'ai bien compris.
Bah, à aucun moment. Ouais, ouais. J'espère que ça se voit et que ça se voit.
Quand on a livré une bataille comme ça pendant 3 heures, comme tu le disais, face à un adversaire, quand on rentre sur un court, l'adversaire en face, même si on le respecte, on a quand même envie de le battre, pas l'humilier, mais enfin c'est presque un ennemi au départ. C'est un adversaire, mais un ennemi. Est-ce que c'est facile justement, une fois que tu as terminé la rencontre, de revenir en arrière et de faire évacuer tous ces sentiments qui peuvent t'assaillir pendant une rencontre?
Ouais, en vrai, c'est super facile parce que la plupart des joueurs que je joue ont du respect pour moi, donc j'ai du respect pour eux. Souvent, ça va dans les deux sens. Et en fait, un match de 3 heures, qu'on le gagne ou qu'on le perde, il y a une forme de respect pour l'adversaire quand il gagne, parce qu'il a surmonté des choses qu'on a essayé de surmonter et on n'est pas sorti vainqueur, donc il y a la déception. Mais c'est deux choses différentes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs qui sont sur le circuit parce que je sais ce qu'ils ont fait pour en être là. Parce que j'ai fait les mêmes choses, je sais les sacrifices, les efforts que c'est, je sais ce que ça coûte. Donc tous ceux qui sont là, c'est pas par erreur. Et du coup, j'ai beaucoup de respect envers eux pour ça.
Corentin, est-ce que tu as écouté les déclarations de ce qu'il a, de ses déclarations d'après match? Puisque lui, il a quand même fait une déclaration en conférence de presse en me disant que il t'accuse un petit peu, quoi. Il dit que c'est de ta faute. Enfin, moi, j'étais très surpris de ça. Alors, je suis pas jugé parti. Enfin, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de recul. Qu'est-ce que t'en penses ces déclarations?
Bah après, de toute façon, c'est assez subjectif. Hein. Quand on regarde une vidéo, tout le monde va avoir un point de vue différent. J'imagine que lui aussi, après ce qu'il a fait, il va pas dire que c'est de sa faute, parce que pour les suites que ça peut. Qu'il peut avoir et tout ça, ça serait un peu bête de sa part. Mais après, s'il pense que c'est de ma faute, je l'entends, c'est son point de vue à lui. Mais en vrai de vrai, moi, je suis allé sur le terrain, j'avais qu'une envie, c'était de partir, en fait, parce que j'étais déçu. Ça fait deux fois d'affilée que je perds contre lui sur un match très serré. Donc j'étais juste déçu, en fait. J'étais très déçu, parce que j'ai vraiment tout donné pendant ce match. J'étais déçu pour mon entraîneur, j'étais déçu pour. J'avais envie d'aller plus loin, enfin, pour plein de raisons, j'étais déçu. Et du coup, en fait, j'étais surpris de qui viennent comme ça m'agresser au filet, alors qu'il avait gagné. J'étais surpris.
Je raconte la scène pour ceux qui ne l'auraient pas vue. C'est une poignée de main assez virile, on va dire. Et puis on sent que sur la poignée de main, chose qu'on a peu l'habitude de voir, vous êtes torse contre torse parce que il y a tellement de d'émotions et de décharges.
En fait, il me tire. Moi, je vais pour lui serrer la main tranquillement. Et je vois qu'il prend de l'élan pour me serrer la main. Donc à ce moment-là, je comprends plus ou moins. Donc je lui serre la main et je sais que ça va être qu'il va falloir serrer la main parce que apparemment on est parti pour ce genre de poignée. Mais bon, il y a 3000 personnes, je pense, dans la salle. Donc c'est quelque chose où moi, il y a des enfants. Et d'ailleurs, dans mon message que je publie après, ce qui est un peu bête, c'est que bien sûr que je regrette pour les enfants parce que c'est un mauvais exemple et que c'est Et d'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle je regrette, parce que les adultes, ils sont assez grands pour comprendre ces choses-là. Les enfants, non. Donc, je regrette juste pour tous les enfants qui étaient là sur le terrain, les ramasseurs, tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, il me tire vers lui. Donc, je suis surpris. Je suis surpris de ce moment-là.
Ok, surpris de ce moment-là. Corentin Moutet est avec nous dans les grandes gueules du sport. Et puis après, on débattra au-delà de ça sur, évidemment, on va pas rester que sur ce cas précis. Parce que bon, c'est pas non plus très, très grave ce qui s'est passé sur ce cours de tennis. Après, et puis on fera connaissance un peu plus avec Corentin. Stephen.
Oui, tu veux que je dise quoi?
Non, tu voulais prendre la main.
Non, parce que moi, je voulais revenir sur le débat.
D'accord.
Je voulais revenir sur le débat. Donc vas-y, Christophe, je vais pas faire une interview de Corentin.
Non, moi, je voulais poser une question à Corentin. Corentin, c'est la première fois que tu te bagarre sur un terrain, mais tu es quand même assez coutumier du fait des pétages de plomb. Est-ce que tu penses pas aussi qu'aujourd'hui tes adversaires vont essayer de profiter de ta faculté à t'énerver assez rapidement pour essayer justement de te faire dégoupiller et pour remporter les matchs? Je lisais une interview de ton ancien entraîneur il y a quelques semaines où il disait
mauvaise interview d'ailleurs, si je peux me permettre.
Tu l'as trouvé très mauvaise? Vous parlez plus depuis?
Si, non, mais je l'aime beaucoup, c'est une personne que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé ça très déplacé de sa part.
Donc il raconte que t'as toujours pas réussi à passer le cap, le petit déclic, comme a réussi à le faire Roger Federer, par exemple, lorsqu'il était jeune, où effectivement il pétait les plombs, et après il est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Est-ce que tu as l'envie et est-ce que tu sens que c'est quand même un point faible chez toi?
Alors, je vais pas faire de comparaison à Roger, parce que je pense que si on se compare tous à Roger ou les meilleures personnes dans notre sport, on est tous ridicules.
En tout cas, nous, on te souhaite la même carrière.
Dans le fait que, si tu veux, il était comme ça en début de carrière, quoi.
Oui, très bien. Non, mais après, sur le fait qu'il y a des déclics, moi, je crois pas trop aux déclics. Je pense que toutes les progressions dans tous les domaines, elles se font assez progressivement. Il n'y a pas de jour et nuit comme ça, du jour au lendemain. Et je pense aussi que, moi, il m'entraînait quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. J'étais 700e junior, aujourd'hui je suis 65 ATP, donc je pense qu'il y a eu quand même une progression là-dessus, tennistique, il y a eu beaucoup de travail, et du coup c'est pour ça que son interview m'a un peu blessé, c'est que je trouve que on peut pas décrédibiliser en fait le travail, les gens autour qui travaillent aussi pour me faire progresser, et la progression qui est là en fait, qui est là dans le classement, dans le niveau, dans tout. En fait, et je trouve ça assez décrédibilisant. Et de sa part, pour m'avoir entraîné, je trouvais ça un peu déplacé, sachant que c'est clair quoi qu'il y a eu des progrès. Après,
mais chez toi, c'était réducteur en tout cas. C'est ce que tu voulais dire. On va avancer sur ce débat, les copains, et peut-être que aussi Corentin pourra nous apporter de l'eau au moulin sur notre débat sur les pétages de plomb qui peuvent arriver. C'est la vie aussi d'un sportif de haut niveau. Donc forcément, je me tourne vers toi, Stéphane.
Ouais, en fait. Alors bien sûr que l'image elle est pas bonne pour le tennis, l'image elle est pas bonne pour les deux joueurs. Maintenant le tennis c'est quand même un sport ultra particulier. C'est que tu joues un mec pendant 2, 3, 4, 5 heures avec de la tension, avec de la pression, avec des émotions. Tu vois nos sports rugby, basket, foot, tu t'embrouilles avec un mec, tu peux le chicoter parce qu'il y a des contacts physiques. Tu peux lui mettre 2-3 pralines. La frustration au tennis, elle est dure à gérer. Et c'est pour ça que tu parlais de Federer. Ouais, Federer, Nadal, les mecs ils jouent 5 heures, ils ont pas une émotion. Bah enfin ils sont numéro 1, ils ont gagné 20 grand chelem, donc c'est des mutants. Aujourd'hui, chacun est fait différemment, avec des émotions, avec des caractères différents, et gère à sa façon les émotions. Moi, j'ai vu des pétages de plomb, on en parle parce que c'est Corentin Moutet, parce qu'il est français, et parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a que ça à se mettre sous la dent sportivement pour le tennis français, parce qu'en grand chelem, les Gaël et tout ça sont tous partis, donc on aspire souvent à des deuxièmes semaines qui sont pas là. Moi, j'ai vu Medvedev péter les plombs à l'Open d'Australie en janvier, on lui a pardonné. J'ai vu Zverev, et je trouve qu'on lui a pardonné très vite, et que l'ATP lui a mis 2 mois de sursis à Zverev.
Alors, qui ça, était
à deux doigts de fracasser un arbitre avec sa raquette à Acapulco, je trouve bien plus grave qu'une pseudo-bagarre à l'Open d'Orléans. J'ai l'impression qu'on pardonne aussi tous les excès à Nick Kyrgios. Pourquoi on leur pardonne tout ça?
Pardonnait aussi à McEnroe à l'époque.
Mais pourquoi?
Quand il pétait les plombs.
Mais parce que les mecs gagnent des tournois, parce que les mecs sont top 20, parce que c'est des stars, et je trouve que l'ATP a été très conciliante avec Zverev.
Dans le cas de Corentin, on n'a pas lui pardonné. Il a attendu pardon, il a rien fait de mal.
On en fait tout à fait.
Aujourd'hui, on en a pas fait.
Oui, mais j'aimerais avoir ton regard et après on va aller voir David. Ton regard sur ce que vient de dire Stephen. Est-ce que il y a un peu un deux poids deux mesures c'est plus facile de pardonner quand les mecs gagnent quoi. En gros.
Ouais, non, mais de toute façon, je l'ai toujours dit. Le jour où, si jamais un jour je suis numéro un mondial ou si un jour je gagne un grand chelem, j'aurais beau me comporter de la pire façon sur le terrain, les gens l'accepteront. Et si jamais je suis 200e mondial et que je me comporte très bien, les gens me regarderont pas de toute façon. Exactement. Donc en fait, c'est qu'une question. Les gens ne s'intéressent qu'au résultat.
C'est le regard.
En fait, c'est que ça. Professionnellement, c'est si tu réussis, si tu gagnes des matchs, t'es nul si jamais t'en gagnes pas.
C'est la loi aussi du sport.
C'est un peu comme ça. C'est la loi du sport.
Mais oui.
Mais je pense qu'on peut être fier de soi même quand on perd. Je pense qu'on peut être fier de soi même quand on se comporte mal parfois parce qu'on a des émotions. Je pense qu'on peut être fier de soi en fait parce que c'est beaucoup d'efforts pour être ici de toute façon. Et que
oui, mais
évidemment que ça pardonne pas tout et qu'on a on doit se comporter d'une certaine façon pour donner l'exemple et pour nous-mêmes en fait pour se respecter nous-mêmes. Mais en fait je pense que on est facilement condamnable comme tu disais. Je sais pas si c'est parce qu'on est français ou si c'est parce que et puis. Ça fait parler aussi parce que le tennis c'est un sport super lisse parce qu'on a le droit de rien faire sur un terrain.
Mais...
et du coup en fait quand on voit quelque chose comme ça les gens en fait ce qui est très bizarre pour être au cœur du truc ce qui est très bizarre c'est que d'un côté les gens sont contents de voir ça parce que ça enlève ce sport lisse
oui,
et d'un autre côté ils veulent te punir pour ça mais les gens ils relaient les vidéos. Moi Eurosport je sais pas si j'ai le droit de le citer ici.
Si tu le fais évidemment, les adore.
non mais tout le monde a relayé la vidéo.
Ouais.
Donc ça fait un peu la pub de ce sport. Ah c'est pas si lisse, c'est pas mal et en même temps, il y a pas le droit de faire ça.
Oui mais
et puis on va s'entendre. Attends Denis, je te dis David, on l'a pas entendu depuis 20 minutes au moins qu'on échange tous avec.
Tu nous as dit on veut pas parler, tu nous as dit.
Moi j'ai camembert David.
Ah David,
non mais tu vois, je l'ai fini aussi.
Tu as raison et on rappelle regarder la vidéo, c'est pas
parce que moi je me bats avec une babola dans les mains, je t'annonce que le mec sa tête elle passe à travers le corps.
Je voulais rebondir, c'est pour ça.
Oui mais tu rebondiras juste après. David Douillet.
Tu peux rebondir sur David par contre.
Là on est en train de parler d'une tempête dans un verre d'eau quoi. Enfin c'est
ouais, c'est le problème du tennis.
Ouais, mais c'est dingue parce que c'est on est dans une ère de la polémique, du truc. Dès qu'il y a une mouche qui pète, ça y est, ça devient un truc de fou. Moi, je trouve que les gens sont, enfin, toutes celles et ceux qui relaient ça ne connaissent pas le haut niveau, ne connaissent pas le sport et en particulier le tennis qui, quand tu fais du rugby, du judo, du basket, t'es en contact avec le bonhomme. Là, tu l'as devant toi, tu peux pas le toucher, etc. Le seul moment où tu le touches, c'est à la fin.
C'est pour lui dire bravo, alors t'as perdu. Gros.
Voilà. Et en plus, voilà. Donc tu le contiens. Et puis, si tu mets ta rage dans un coup, eh ben 9 fois sur 10, il est dans le filet. Tu vois. Donc c'est très compliqué de conserver cette énergie.
Quand tu es sur un tatami, que t'étais battu, ça t'est rarement arrivé, mais que ton combattant, ton adversaire t'avais un peu manqué de respect pendant le combat, t'as jamais eu envie de le prendre et de lui faire une.
Tu sais pourquoi? Parce que gamin, mais je vais t'expliquer un truc. Alors peut-être ça a parlé à Corentin, mais je veux pas être le donneur de leçons de service. Mais moi j'avais remarqué ça, que il y avait des adversaires qui te poussaient à bout, qui te faisaient des saloperies sous le kimono, etc., etc. Et pour te faire péter les plombs et en réalité mieux te battre. J'avais appris un truc très tôt. Je me suis mis à apprécier et à adorer tous mes adversaires, même ceux qui, en dehors du tatami, je pouvais pas voir. Non mais vraiment, pourquoi? Non mais très sincèrement, je jure, c'est un super truc. Tu aimes ton adversaire parce que il te pousse dans tes derniers tranchements pour te sublimer, et tu l'aimes que pour ça. Voilà. Et quand tu joues, et quand tu l'as dans le kimono, tu es dans cette configuration mentale là, ce qui fait que il peut faire ce que tu veux. Tu pètes jamais les plombs parce que, en réalité, tu dis, waouh, ben, ok, il me challenge, je vais aller plus haut que lui, je vais faire mieux que lui, toi. Et là, t'es dans un truc qui te tire vers le haut, plutôt que d'être dans un truc qui te tire vers le bas avec de la haine, de la frustration, du truc, du machin. Mais enfin, c'est un truc qui est particulier, qui est propre à soi-même. Voilà.
Oui, mais malgré tout, c'est intéressant. Non, mais on parle d'une chose essentielle, que dans tous les sports, on est confronté à la provocation.
Mais ce que je voulais dire.
Que ce soit le rugby, le judo, le tennis. Et à partir du moment où tu as la provocation, ou soit tu y réponds, soit tu y réponds pas.
Oui, mais tu peux y répondre sur un terrain de rugby, pas sur un terrain de tennis.
Et David, vas-y, finis, et David conclura aussi.
C'est pour ça que je veux rebondir, parce que je pense que la référence Federer, elle est importante de la citer. Je le pense vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer à Federer, c'est ridicule. Tu as raison, Corentin. Mais après, Federer, quand tu vois son cheminement, alors c'est pas pour tout le monde va pas redevenir numéro mondial, mais quand tu vois son jeu et son caractère à 15 ans, tu te dis, mais comment ce mec a fait pour devenir ce qu'il a été. Et moi, je suis bluffé par ça. Beaucoup plus que par ce qu'il a été sur un terrain. Parce que je me dis, mais quand même, il part d'où? Comment ce mec a pu se contrôler, s'auto-contrôler et arriver dans la dimension où il est arrivé? Mais en faisant quel travail, j'en sais rien, je te dis pas ça. Et ma question pour toi, Corentin, c'est est-ce que, j'imagine que tu es dans une réflexion par rapport à ton comportement, j'imagine que tu dois, je sais pas moi, être suivi ou peut-être parler avec des coachs. Non, mais j'en sais rien, c'est pour ça que ma question. Est-ce que aujourd'hui t'es conscient que
est-ce que c'est un axe de travail?
Voilà, exactement. En gros, c'est ça. Pour moi,
c'est un axe de travail comme tout. En vrai de vrai, hein, c'est un axe de travail pour comme tout, comme les coups, comme le physique, comme je me réveille tous les jours pour travailler et améliorer mon jeu. Donc ça en fait partie, bien sûr. Ce serait mentir de dire que ça en fait pas partie. Mais pour moi, c'est des points faibles. En fait, les gens pointent souvent ça parce que c'est visible. Mais moi, quand je m'énerve, j'en ai gagné des milliers des matchs en m'énervant. C'est ça qui me pousse, c'est ça qui me stimule aussi.
Oui, mais est-ce que tu pourrais pas en gagner autant sans t'énerver? Ça, ma question, c'est plus ça, si tu veux. Ma question, elle est là.
J'en sais rien, mais est-ce que Roger va faire la même carrière en restant nerveux? On n'en sait rien non plus.
Eh ben oui, mais t'as vu la carrière qu'il fait derrière.
Denis, moi, pour avoir été dans beaucoup de situations similaires à Corentin, j'étais meilleur quand j'avais me prenais la tête avec.
Quand t'avais vu rouge quoi.
Mais quand j'étais tout calme, j'étais pas bon. J'avais besoin de trouver un arbitre, d'envoyer chier un arbitre ou mon coach pour me mettre dans le match.
Oui, mais
et après les gens sont comme ça. Ça fait partie de.
Oui, il y a des gens qui sont
tout le monde est différent.
Tu peux progresser.
On est d'accord.
Tu peux progresser. Tu peux de temps en temps essayer de. Je sais pas. Moi j'ai vu des psychologues du sport qui m'ont dit raconte-moi ta vie, respire. Bon, j'ai fait 3 séances. Basta. Mais ça fait partie de chaque.
Non, je viens de dire que nous nourrit du conflit. Je suis d'accord avec toi. Plein d'athlètes se nourrissent du conflit. On en a besoin. Mais c'est pas pour cela que c'est une réalité.
C'est pas une règle.
Bon, non, exactement. C'est pas une règle.
Ouais. Je vais savoir comment ça, parce que moi.
Alors, tu sais quoi? On va marquer une courte pause, parce que je sais que vous avez plein de questions.
Faut payer ton salaire.
Bah, ouais, mon pote. Okay. Bien sûr. On va marquer une courte pause. Et après, je sais que David voulait aussi nous apporter quelque chose et nous dire et finir ce qu'il essayait de nous dire. L'abbé Douillet, en tout cas, aime ton adversaire. Ça, je retiens ça de la part de David pour Corentin. Et on se retrouve dans quelques instants avec Corentin Moutet qui est notre invité. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, David Douillet, Denis Charvet, Stephen Brun et notre invité Corentin Moutet. On poursuit la conversation dans quelques instants sur, évidemment, cette altercation qui a eu lieu cette semaine. Vous avez certainement vu les images, mais aussi sur cette saison que l'on débriefe avec toi dans quelques instants. Sachez que dans 10 minutes, le zapping des GG avec le titre de Verstappen, notamment, qui pourrait être en danger, le titre de la saison dernière. Ouh, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Vous me direz ça dans quelques instants. Peut-être que je vous reproposerai l'OM. Je sais pas si vous savez changer d'avis. Ça, c'est dans 10 minutes. Corentin Moutet est donc toujours avec nous autour de ce débat. Faut-il pardonner les pétages de plomb. Vous êtes plutôt d'accord dans le studio RMC pour dire oui, on pardonne. David Douillet, tu poursuis la discussion car tu voulais ajouter quelque chose il y a quelques instants. David.
Je voulais dire que tout ça était très humain et heureusement qu'on a ça. Je vais pas dire qu'heureusement qu'on a les pétages de plomb, mais voilà, on n'est pas des robots et on est. Faut comprendre ce qu'est une compétition de haut niveau. Il y a une pression, la pression de l'enjeu. Il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on rate, etc., etc. Et souvent, on est en colère contre qui ? Contre soi-même, en vérité. Et quelquefois, ça réagit autrement. Surtout quand on vient vous chercher, quand l'adversaire trouve le petit chemin qui vous amène jusqu'au pétage de plomb. Voilà. Et ça doit être compris de tout le monde. Ok, c'est pas la belle image pour les gamins, etc., etc. Mais on est que des femmes et des hommes avec nos défauts et nos qualités, et c'est la vie, et c'est comme ça. Donc on doit pardonner, surtout à des gens qui sont généreux pour vous montrer de belles choses dans leur art, que ce soit le tennis ou autre chose.
T'es pas obligé de pardonner à tout le monde, je suis désolé David. Il y a des pétages de plomb, t'es pas obligé de pardonner. C'est trop.
Zidane, vous lui avez tous pardonné.
Non, mais c'est trop facile ce que tu dis.
Zidane, vous lui avez tous pardonné.
Dans la minute.
C'est vrai que c'est humain, c'est vrai que c'est des rapports avec soi-même, on est d'accord, tout ce que tu dis, on est d'accord. Mais après, moi, je reviens à la provocation. C'est du self-control aussi, t'es obligé de faire face à une provocation de tout moment.
Corentin, on parle et on l'a dit de quelque chose qui, au final, n'est pas grand-chose. Est-ce que tu as peur ou pas du tout que cette image reste pour toi et qu'on reste centré là-dessus en se disant « Ah oui, Corentin Moutet, je m'en souviens. » Est-ce que c'est un truc où tu y penses ou pas du tout?
Bon, en fait, s'ils restent bloqués là-dessus, c'est qu'ils vont rater le plus important, en fait. Je pense que c'est vraiment, il y a rien à manger là-dedans, en fait.
Il y a rien eu.
Rien passé. Il m'a insulté, on s'est un peu tiré. Enfin, c'est passé une vraie bagarre en vrai, donc il s'est rien passé. Je pense qu'il y a rien à retenir de positif là-dedans, à part que, comme on disait, c'est humain. J'ai réagi, j'aurais pas dû réagir. Vous parlez de self-control. J'aurais peut-être pas dû réagir, mais j'étais très surpris sur le moment. Donc, en fait, j'étais pas préparé à ça.
Ça se passe en une fraction de seconde.
Tu n'as pas l'impression que s'il n'y avait pas eu d'autres antécédents auparavant, ce serait plus facilement passé. Parce que c'était un peu coutumier du fait. Pas des bagarres sur le terrain. Mais je me rappelle d'une histoire avec un petit ramasseur de balles où vous êtes pris la tête il y a quelques temps.
Laquelle?
Je ne sais plus. Je disais ça, des choses.
Sur celui.
Ouais, je lisais ça tout à l'heure.
On va laisser Christophe retrouver cette version d'histoire. Attention parce que. Je voudrais juste dire qu'on reçoit pas Benoît Paire. Hein. C'est Corentin Moutet qui est avec nous, les copains. Moi, je voudrais vous faire écouter quelque chose pour partir sur un autre sujet. Écoutez ça et dites-moi à quoi ça vous fait penser. Corentin Moutet, écoutez ce son, Corentin.
Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce traquenard. Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir. Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce traquenard. Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir.
Moi j'aime beaucoup et sachez, chers auditeurs, c'est Corentin Moutet qui rappe. Donc, d'ailleurs, Stephen, t'avais une question sur
ouais, bah alors,
ça, parce qu'hier soir, t'as écouté, tu m'as
ouais,
dit, j'ai écouté beaucoup de chansons.
Je suis allé voir notamment les clips. Alors, je vais pas me prendre pour Olivier Cachin ou Mehdi Maizi, qui sont des chroniqueurs de rap. Mais j'ai trouvé que toutes tes chansons, tous tes clips, c'était un petit peu des chansons un peu tristes, un peu sombres, et que ça manquait un peu de. Alors, est-ce que c'est le reflet de toi, de ta vie, de.
Bah c'était pendant le confinement. Après j'ai arrêté, mais pendant le confinement c'est vrai que c'était pas. Enfin c'était une période où moi j'étais tout seul tout le temps pendant un mois et demi. Donc c'était ce qui ressortait. En vrai moi j'avais pris ça comme une thérapie. Donc souvent dans les thérapies c'est pas le plus lumineux qui ressort.
Mais tu chantes depuis tout petit?
Non pas du tout.
T'es venu comme ça? C'est.
Ouais j'ai. Bah, pendant le confinement c'est tous créer des nouvelles passions. Hein.
Tu fais des sons aussi.
J'essaie, ouais.
Mais c'était quoi qui t'a intéressé au départ, l'écriture?
Ouais, moi j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de rap et c'était vraiment l'écriture, de voir si je pouvais réussir à allier la technique, le sens et puis vraiment ce qui me représentait. Donc c'était marrant, c'était sympa à faire.
Ouais. L'équipe et tout.
Ah, okay. Bravo. Hein. Si on peut réécouter un petit morceau avant la fin.
On va réécouter juste après. On réécoutera. Mais je trouve sincèrement qu'il y a quelque chose dont tu pourrais poursuivre dans cette voie. Mais continue le tennis. Parce qu'on va parler de cette année avec l'US Open qui s'est très bien déroulé pour toi, où tu bats Wawrinka, où tu bats Van der Van Schulp.
Ouais.
Alors, il y a un problème. Je l'ai bien dit ou pas, Corentin?
Ouais, je crois.
Merci. Kachin, c'est bon, je l'ai bien dit aussi.
Kachin. Et ah, justement, c'est face à Kachin qu'il y a eu cette histoire avec le petit ramasseur.
Ouais.
Cachin, c'est vrai, cachin, tu t'en rappelles?
Non, pas du tout.
Tu t'en rappelles pas? Non, alors, les journalistes ont écrit des trucs.
Arrête de l'embêter, oui.
Mais oui, mais
les journalistes l'ont dit, ça va
être fait. Quand
non,
même.
Mais il y a eu plein de papiers partout. Tu t'adresses à lui.
Non, mais après, si
dit,
on cherche si des défauts,
bête, oui, voilà. Il faut que je me mette tout nu pour que tu me donnes la balle. Tu lui dis.
Ah ouais.
Non,
bah c'est, drôle, c'est drôle ça.
Oui, tu as raison, c'est drôle. Oui.
Et après, il y a eu cette défaite en huitième de finale, mais c'est la première fois que tu allais en huitième de finale dans un grand chelem par Casper Ruud, qui est allé jusqu'en finale. Évidemment, on s'en souvient, c'était il y a quelques semaines. Est-ce que juste sur ce parcours, tu peux dire que ta saison est réussie?
Non, vraiment pas. Je pense que le tournoi que je gagne après, justement l'US Open, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire, enchaîner. Avec la fatigue, avec le décalage horaire, tout ça. Et je suis bien plus, pas fier, parce que je suis aussi fier de mon US Open, mais je suis fier d'avoir gagné ce Challenger après, de revenir dans des conditions où personne ne regardait les matchs, j'étais tout seul sur le terrain. Donc voilà, je pense que. Non, je suis content depuis Roland-Garros. Depuis Roland-Garros, je trouve que j'arrive à bien faire les choses et que.
Roland Garros, voilà, où tu bats au premier tour une nouvelle fois Wawrinka, il doit pas beaucoup t'apprécier. Hein. Oh non, encore Corentin Moutet au premier tour. Battu également, tu as été battu par Rafael Nadal, mais ça, hein,
on difficile
de t'en vouloir. C'est vrai que c'est une saison où on a la sensation que, et on met de côté évidemment ce qui s'est passé cette semaine, mais on a la sensation qu'il y a une vraie progression. Est-ce que toi aussi tu le sens? C'est-à-dire que tu sens que tu vas être beaucoup plus attendu maintenant?
Ouais,
pas forcément.
Je sais pas en fait s'ils vont m'attendre, mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à enchaîner comme ça. J'avais eu beaucoup de mal à jouer des tournois, à m'entraîner tous les jours, j'avais pas mal de pépins physiques, donc à chaque fois on devait faire autour de ça. Et c'est vrai que depuis les préparations de Roland Garros, j'ai raté aucun entraînement à cause de ça, raté aucun tournoi, et c'était vraiment l'objectif principal parce que je sentais que je jouais bien, mais j'avais cette frustration de me dire ouais, mais j'arrive pas à enchaîner, je dois toujours prendre du repos pour reposer les douleurs et tout, et là j'ai réussi à le faire, donc je suis vraiment content qu'on trouve l'équilibre petit à petit, de pas trop s'entraîner,
mais attendre. Mais est-ce que tu sens le respect chez les autres maintenant, chez les autres joueurs?
Souvent sur le circuit ça marche comme ça, quand tu les bats une fois ils disent bonjour, ouais. Alors que
pas chez le Bulgare.
Non mais c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui tu sens que le regard des autres joueurs a changé par rapport à toi?
Non mais t'es plus accepté en fait quand t'es dans le vestiaire. Mais après, je sais pas s'ils ont plus peur.
Après, les mecs, premier tour, c'est pas un bon tirage quand t'as mouté en premier tour de Grand Chelem ou de Masters 1000.
Oh, toi, le spécialiste, pourquoi?
Bah, tu as joué, toi?
Pourquoi c'est pas
un premier tour?
Non. Mais parce que c'est. Il a une main incroyable, il est gaucher, il fait des coups qui sortent de l'ordinaire, il est pénible à jouer, Corentin, c'est une petite mobilette, donc physiquement il court partout, il ramène des balles, il fait des points hallucinants, c'est pas un bon tirage, Corentin Moutet. Alors,
gros cardio.
Peut-être que quand il montera, il sera top 50, on espère qu'il sera tête de série, j'espère que lui il prendra pas un garçon un peu relou à jouer, mais c'est quoi d'ailleurs l'objectif au classement, c'est d'être dans les 50, 40,
ouais,
30?
Je sais pas si je vais réussir, mais c'est de finir l'année dans les 50. J'aimerais bien, c'est l'objectif que je m'étais donné. Et puis après, si j'y arrive pas, j'essaierai l'année prochaine. Mais en tout cas, essayer de bien finir dans les 50 pour pouvoir avoir un planning plus facile à faire l'année prochaine.
Et pour y arriver, c'est quoi? C'est des tournois gagnés? C'est d'enchaîner les victoires?
Beaucoup de matchs. Il doit rester 4 tournois, je pense. Ouais. Donc ça doit être, je sais pas, 150-200 points, comme ça.
Quand t'es top 50, après c'est fini les challengers. Après,
ouais, c'est ça. Ouais. Tu joues
top 50, tu chantes.
Ouais. Et financièrement parlant, t'as un gap quand tu passes justement à certains classements, ou alors c'est en fonction des résultats que tu fais, notamment dans les grands chelems, où là les prize money sont vachement plus importants.
Ça dépend des grands chelems, ça dépend à ton âge aussi par rapport à ton classement, parce que souvent les sponsors sont, si jamais t'es 200e mondial à 16 ans ou à 23 ans. Tu gagnes plus, 16 ans, je pense que c'est
les mecs parient plus sur toi que
c'est ça. Aller, ouais. Donc il y a ça, et puis évidemment les grands chelems, et puis ça dépend aussi de qui tu t'entoures, en fait, tes frais. Parce qu'en fait, nous on gagne beaucoup d'argent, mais on a énormément de frais vu que tout est pris par le joueur. Donc il y a ça à prendre en compte, beaucoup de personnes qui regardent sont piégées par ça, et beaucoup de joueurs aussi peuvent être piégés, où tu gagnes 200 000 euros, tu te dis, c'est bon, je peux vivre. Et en fait, tu te rends compte que les dépenses, elles sont énormes parce que tu voyages toutes les semaines.
Tu payes ton entraîneur.
Tu voyages toutes les semaines, tu voyages avec ton entraîneur.
Et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité pour payer la location de ce studio aujourd'hui. Merci d'ailleurs, Corentin, de nous permettre ça. On va terminer, avec Corentin, oui.
On va terminer, donc c'est la dernière question.
Je pense, oui.
D'accord. Non, en fait.
Elle est bonne ou pas?
Je sais pas si elle est bonne.
Bon, bah, vas-y.
Non, en fait, je veux dire que je suis très content parce que Corentin, on avait tous cette image de, parce qu'on le connaissait pas, en fait, dans les médias. C'est, je sais pas, il s'exprime pas beaucoup.
On le voit jouer, quand même.
Oui, mais on le voit jouer, mais t'avais ce regard de l'extérieur.
Il ne s'exprime pas beaucoup. En tout cas, ouais. Ça fait plaisir de l'entendre.
Ouais, justement. Et les gens jugent Corentin Moutet sur son niveau tennistique, j'espère, et surtout pour ce qui se passe sur le terrain. Et je trouve que l'image est pas bonne. Et je suis très content qu'il soit venu, ici dans notre studio pour justement l'apprendre à, enfin, l'écouter parler, comprendre que, bah, c'est un garçon qui sait parler correctement, qui s'exprime bien et que c'est une bonne personne. Et qu'il faut pas juger, s'arrêter à ce qui se passe sur le court. Parce que moi aussi, j'ai souffert de ça. On s'est beaucoup arrêté sur mon comportement sur le terrain en disant que j'étais un gros connard et que finalement, je pense être un bon mec.
Mais ça t'a pas empêché d'être
quand même un connard.
Je vais dire à Corentin que je regardais jouer de l'extérieur. Jamais eu une mauvaise image de lui, au contraire, une image de combattant, de guerrier. Et c'est vrai, quand tu le vois jouer, ce mec, il va dans des retranchements qui font plaisir parce que c'est ce qu'on aime dans le sport.
Et moi, j'ai jamais eu de mauvaise image.
Non, je le dis vraiment sincèrement. Benoît Paire et Mario Martoli, j'aimerais bien qu'ils discutent tous les deux. Je sais pas si ça se finira comme le dernier match de Corentin, mais okay. Ce serait pas
ça.
C'est
mieux que la rabat.
Alors,
ça, excuse-moi,
lui, Denis Charvet, la tienne quand même. On coupe au montage.
Oui, David, 10 secondes, s'il te plaît.
Il va falloir en couper d'autres.
Ouais, c'est très simple. Moi, si Corentin devient le McEnroe français, ça me va super, voilà.
Ils sont gauchers tous les deux, déjà, c'est le point commun.
Mais des gens avec du caractère, c'est toujours plaisant, surtout dans le tennis. Enfin,
merci, Corentin. Il ne faut pas écouter le rap. On va l'écouter, laisse-moi faire cette émission.
Est-ce que tu veux que je le sorte?
Ah ouais, sors-le-moi, il est insupportable. Mais moi, ici, fais le conducteur dès le jeudi, viens.
Le problème, c'est qu'il va te demander.
Oui, mon Denis.
C'est pas parce que tu trois jours dans la semaine.
Ça fait quatre fois que je te dis qu'on va réécouter. Donc fais-moi confiance. Je suis en train de dire au revoir. Toujours un truc à dire. Merci, Corentin.
Merci à toi.
Tu vois, les pétages de plomb, moi je peux lui sauter dessus là. Merci.
Et on va gagner.
Et on te souhaite une belle fin de saison et on suivra notamment ton parcours pour la saison prochaine. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Et vous savez quoi?
On peut écouter ou pas?
C'est une surprise. Il n'est pas impossible qu'on écoute pour se dire au revoir un des morceaux de Corentin Moutet qui est venu car on aime l'entendre parler mais aussi chanter. Et nous, on revient dans quelques instants. Corentin Moutet, merci encore.